Chers amis, bonjour. Pour l'émission Réussir sa vie, au micro Guy. Aujourd'hui, j'accueille Bruno Lebeau. Bonjour Bruno.
Bonjour Guy.
Qui es-tu?
Eh bien, écoute, je suis français et ici installé à Toronto depuis 10 ans. C'est un petit peu le hasard qui m'a amené à Toronto. Après un passage par le Brésil d'ailleurs, dont on pourra parler plus tard. Voilà, je suis né à Vincennes, dans l'est de Paris, pas très loin du zoo, si tu vois où c'est.
Tout à fait.
Et voilà, il y a quelques années, en 1965, pour être précis. Ouais. Et puis voilà, j'ai grandi dans le sud de la France. Pendant une dizaine d'années à La Vera, côté de Martigues, où mon père était ingénieur à la BP, la British Petroleum, qu'on a passé une dizaine d'années là-bas, avant de remonter sur Compiègne, dans l'Oise, au nord de Paris, entre Paris et Lille, et où j'ai passé le reste de mon enfance, de 10 ans à 20 ans à peu près. Et puis voilà, après j'ai fait mes études, des études d'abord d'ingénieur en génie chimique à Londres, et puis après je suis revenu à Paris pour faire un master en management à l'ESCP Europe, Subdeco Paris comme on disait avant. Puis voilà, après j'ai commencé à travailler dans la vente, le marketing, la vente, c'est un petit peu ce qui me plaisait. Pourquoi je me définis un peu, pour répondre en fait à la question qui es-tu, un hybride, toujours aimé un petit peu toucher à tout, à la fois à la technique, mais aussi au commerce. Donc c'est pour ça que je suis parti faire des études d'ingénieur pour commencer, mais courtes, d'où le choix de l'Angleterre qui offrait de pouvoir commencer à faire un bachelor très rapidement en 3 ans, alors qu'en France il fallait faire la préparation aux grandes écoles qui faisait que ton diplôme d'ingénieur, il fallait minimum 5 ans. Ouais. Et comme je voulais faire à la fois une formation d'ingénieur et puis une formation derrière business, je voulais rétrécir et pas non plus passer ma vie à faire des études. Donc voilà, un hybride, tu vois, science, business, puis déjà France, Angleterre. Et puis en fait voilà, ce qui m'a amené naturellement, j'irais un peu dans le domaine de l'emballage, où effectivement la fonction même de l'emballage étant à la fois de conserver, donc une fonction technique, mais en même temps aussi une fonction de vente. Donc ma formation a allé bien et finalement tu vois, je suis dans ce milieu depuis de longues années, et un milieu qui est assez passionnant parce que toujours en pleine évolution, et puis qui marie toujours ces deux, je dirais, ces deux bases, la technique et le commerce.
C'est un bon compromis entre les deux, mais c'est un secteur qui évolue de manière faramineuse avec les nouvelles technologies.
Tout à fait. Hein. Un domaine en pleine évolution, et puis les nouvelles technologies, mais aussi tout ce qui est environnement, puisque c'est qui dit emballage dit déchets. Ce qui reste en général dans les déchets, c'est bien souvent de l'emballage, en tout cas dans un bon nombre de secteurs comme l'alimentaire, la cosmétique, etc. Donc ouais. Oui, et là de grosses innovations en termes de réduction, en termes de réutilisation des matériaux, c'est un petit peu les grands débats.
Surtout que l'emballage, c'est une partie importante du prix qu'on paye comme consommateur.
Oui. Tout à fait, et en fonction des secteurs d'industrie, mais effectivement, dans certains cas, l'emballage représente une partie très importante du prix final de vente, mais ou du coût de revient. Des fois, dans le coût de revient, c'est même dans certains produits. Prenons par exemple l'industrie du parfum. L'emballage est probablement, il y a probablement dans un parfum, il y a probablement plus d'emballage que de jus, comme on dit. Et c'est vrai.
Ouais,
tout est dans tout un emballage. Après, c'est du marketing.
Ouais. C'est fascinant.
Ouais. Ah, un domaine fascinant, l'emballage. Ouais.
C'est séduire le consommateur.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Alors, je ne te connais pas sur le plan professionnel, je te connais pour d'autres activités. Alors, qu'est-ce qui te tient occupé en ce moment, Bruno?
Oula, beaucoup de choses.
Par où on commence?
Ben oui, on vient de parler du milieu dans lequel je travaille. C'est vrai que c'est ce qui me tient quand même le plus occupé, hein, sur, ouais, sur 7 jours de la semaine. Il y en a quand même 5 qui sont consacrés à, voire des fois un peu plus.
Ouais.
Donc oui, gros, je travaille pour une société qui fabrique des tubes plastiques, destinés notamment, principalement pour l'industrie de la cosmétique. Donc, et c'est une nouvelle technologie qu'on développe. Donc on est en pleine phase de développement. On a démarré il y a 5 ans, mais de rien, et on est en train de construire ce business qui évolue très vite, très bien. Donc de bonnes journées bien remplies, et j'ai la responsabilité du marché nord-américain, donc c'est assez vaste. Donc beaucoup de déplacements à travers le Canada et les États-Unis principalement, puisque la majeure partie du marché est aux États-Unis, et notamment à New York, puisque c'est là où on retrouve tous les centres de décision dans le domaine des cosmétiques.
Donc deux belles casquettes, une casquette d'ingénieur et une casquette de marketing, alors.
Tout à fait. Et tous les jours, je vois l'utilité que ça y a dans l'emballage. On résout autant des problèmes techniques que commerciaux, marketing. Donc c'est ça qui en fait l'intérêt, et voilà, deux belles casquettes, comme tu dis.
On choisit des chemins, c'est pas toujours évident, mais on s'aperçoit avec le recul que tout arrive pour une raison.
Tout à fait, c'est clair.
Alors, comme premier choix de musique, t'as choisi Samba Maria, la samba.
Oui, tout à fait. Samba Maria, et oui, ça c'est pour ma femme, c'est vraiment ma rencontre avec le Brésil. Il y a un certain nombre d'années, en 1992, je prends mes premières vacances, et puis je me dis, où est-ce que je vais aller? Et puis mon petit frère, qui à l'époque fait sa coopération au Brésil, me dit, écoute Bruno, c'est le carnaval dans quelques mois. Quelques amis et moi, là, on va le passer à Salvador de Bahia, dans le nord-est du Brésil. Si tu veux nous rejoindre, tu es le bienvenu. Ah, je dis, bah, tiens, bonne idée. Pourquoi pas le Brésil? Et me voilà donc parti pour le carnaval de Salvador de Bahia en 1992. Et c'est là où je rencontre ma femme, Maria. Et voilà. Et donc après, rentrer en France, c'était un petit peu ma musique. C'était Samba Maria. C'était pour Maria.
C'était plus que la musique.
C'était beaucoup plus. Beaucoup plus.
Merci de partager ça avec nous. Donc, Samba Maria. Merci Bruno, à tout de suite.
À tout de suite.
Maria, ne resterons pas au fond de ta favela. Faire un tour à Copacabana, car sans voir le carnaval, sans le rébana. Maria, quand tes deux pieds fleurent le sable du rivage, même les vagues n'osent plus glisser sur la plage, et là, la mer ne sait pas. Maria, tu j'ouvrais les yeux de chat sur ma Maria. Tu es la plus belle des cariocas. De chat, Santa Maria, tu es la plus belle des cariocas. Maria, n'écoute pas le sorcier qui vient de Bahia. Laisse tous tes gris-gris, laisse tes macumbas si tu veux tomber en transe.
À l'émission Réussir sa vie, c'est Guy au micro, et aujourd'hui j'accueille Bruno Lebeau. Bruno, comment es-tu arrivé à Toronto? Par avion, je suppose.
Eh oui, je suis arrivé.
C'est original.
Je suis arrivé par avion en 2006. C'était pas vraiment prévu quelques mois auparavant. Ça s'est fait très rapidement. En 2004, je vivais à Paris et je pensais que on allait probablement passer le reste de nos jours à Paris. On s'y plaisait bien, Maria et moi. On venait d'avoir un petit garçon qui à l'époque avait 3 ans. Maria travaillait chez Gucci, à la boutique Gucci avenue Montaigne, où elle voyait défiler un tas de personnes ultra connues. Et puis elle avait une très bonne cliente brésilienne, Sandra, qui était passionnée de mode et qui avait les moyens de s'acheter tout ce qui sortait. Et puis un jour, elle passe à la boutique et puis elle dit à Maria, écoute, je veux lancer une marque comparable à Gucci au Brésil. J'ouvre 6 magasins. J'ai un couturier qui va s'en occuper. Je veux que tu prennes la direction de cette affaire.
Wow.
Et elle rentre le soir et puis elle me fait part de son projet et puis je lui dis est-ce que tu as envie de le faire et puis elle me dit oui, ça me tente bien. Ben je dis écoute, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Donc moi je suis partant. Écoute, je regarde avec mon entreprise s'ils peuvent me trouver quelque chose au Brésil, et puis sinon je trouverai là-bas sur place. Et nous voilà partis. Ça s'est fait vraiment très rapidement. Ça devait être au mois de mai 2004. Et puis voilà, juin, juillet, on était au Brésil. L'aventure a duré 2 ans. Le projet finalement a capoté. Ils ont ouvert 6 magasins comme prévu, mais ils les ont fermés aussi. Et puis moi, j'avais trouvé sur place un emploi qui, pareil, pour une filiale française d'un grand groupe, qui se débarrasse de sa filiale. Et donc après, pareil, moi, je me retrouvais donc libre sur le marché, tous les deux. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On rentre en France, on reste au Brésil, on part ailleurs. Et puis finalement, ben on se dit, écoute, on est au Brésil, on était à São Paulo, hein, dans la capitale économique. Mmh. Et puis on se dit, ben écoute, on est installé là, on va chercher, puis on verra bien ce qui se présente. Et puis voilà, je rencontre une société qui avait une filiale d'ailleurs à São Paulo, qui était une société française, qui me dit, écoutez, moi pour l'instant, j'ai besoin de quelqu'un à Toronto. Est-ce que ça vous intéresse? Pareil. Je vais voir Maria. Toronto, est-ce que ça te dit, après São Paulo? Et puis, elle m'a dit, écoute, oui, qu'est-ce qu'on parle là-bas? Anglais? Oui, bah, écoute, oui, ce sera bien pour notre fils. Ouais. Et nous voilà partis, donc, pour Toronto. Donc, on est arrivé en avion, effectivement, en reconnaissance la première fois au mois de juin.
Moi, juin, oui, c'était juin, bien choisi.
Juin 2006.
C'est mieux que février, quand même. Oui.
C'est vrai. Pas de choc thermique.
Non, non.
Et puis, voilà, tout de suite, on a été bien accueillis. On sent vraiment, enfin, on a tout de suite senti cet accueil que les Canadiens vraiment savent réserver aux gens qui arrivent dans leur pays, et qui est très joli, parce que je me rappelle, on est arrivé dans un hôtel à 2h du matin, et à la réception, c'était un Mississauga, c'était un Indien, et les premières choses qu'il nous disait, bienvenue au Canada. J'ai trouvé ça formidable.
Super.
Que quelqu'un qui était probablement pas né au Canada, qui accueillait d'autres étrangers, dise bienvenue au Canada. Donc voilà comment est arrivé. Puis après, bon, on s'est installé. Et puis on a appris à apprécier Toronto, qui au début effectivement n'est pas forcément une ville flamboyante comme on pourrait imaginer, ou comme on avait pu voir d'autres villes, mais par contre on a vu après que le temps on s'y attache, et voilà, tu vois, 10 ans après on...
Alors, si tu devais définir qu'est-ce qui te plaît à Toronto?
Et alors, ce qui nous plaît à Toronto, il y a beaucoup de choses. Je crois que d'abord il y a ce côté cosmopolite. Je suis français, Maria est brésilienne. On vit à Toronto, on a l'impression vraiment d'être à la maison. C'est le quotidien dans nos relations. On le voit, tout le monde, des couples de différentes nationalités qui ne sont pas nés forcément au Canada. Ce brassage des cultures qu'on aime beaucoup, ça c'est, je crois, c'est probablement une des premières raisons. L'autre raison, c'est notre fils qui maintenant a 15 ans. Et on trouve que Toronto est une ville formidable pour un enfant, pour grandir justement dans ce milieu cosmopolite. Avec des amis de tous les coins du bord, en parlant plusieurs langues.
Alors, ton fils a choisi marketing ou ingénieur?
Ben écoute, c'est vrai qu'il a 15 ans, donc l'université approche. Donc, ce sont des discussions qui commencent à peine à germer à la maison. Mais déjà, les universités viennent les courtiser à l'école et se présenter, donc ils voient déjà des universités. Je crois que c'est un petit peu tôt, mais apparemment c'est les affaires qui l'intéressent plus. Il parle de faire du business, c'est pas encore très précis dans son esprit, mais voilà, il s'y prépare tout doucement.
Alors, comme prochaine chanson, tu as choisi une belle histoire. C'est un bel enchaînement de Michel Fugain.
Oui, Michel Fugain, c'est vrai que c'est un chanteur et une chanson qui est vraiment formidable, qui est qui est belle et qui moi m'évoque alors non seulement oui une belle histoire, c'est vrai, mais également les vacances. Ouais. C'est les vacances, c'est le mois de juillet, la partir prendre l'autoroute du sud à partir de Paris et partir vers la Côte d'Azur ou vers l'Espagne ou vers la Grèce. Donc voilà, très belle chanson et un homme formidable, une belle voix.
Ouais. Merci Bruno. Michel Fugain, à tout de suite.
Merci.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue, là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire.
On est de retour à Réussir sa vie sur Choc FM. Aujourd'hui, notre invité est Bruno Lebeau. Bruno, bien sûr, ton métier t'occupe beaucoup, mais tu as des passions, tu as des hobbies. Alors, si tu pouvais partager ça avec nous.
Oui, bien sûr. Écoute, déjà, c'est important, je crois, de passer le plus de temps en famille possible. Donc, on essaie de faire des choses ensemble. Alors, c'est du vélo. Actuellement, c'est très agréable là, dans les belles rues de Toronto, dans les ravines, avec des couleurs magnifiques. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Vélo, tennis. Je fais un petit peu de tennis. J'ai toujours aimé ça. Et puis j'ai réussi un peu à passer le virus à mon fils qui commence à me challenger sérieusement. Donc, on se fait des jolies parties de tennis. Et puis sinon, le jardin aussi. On a la chance d'avoir une maison avec un beau jardin c'est un peu notre cottage dans Toronto. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on aime Toronto, c'est qu'on a l'impression d'être à la campagne dans une grande ville, pas loin du métro. C'est quelque chose d'assez formidable quand on y réfléchit pour une grande ville. Donc voilà, le jardinage, la cuisine, même si c'est Maria qui s'en occupe pour la plus grande partie, mais j'aime bien. En tout cas, j'apprécie sa cuisine. Et voilà, les soirées au coin du feu, les sorties.
Alors, est-ce que tu es un bon cuisinier?
Oui, j'étais un bon cuisinier quand j'avais un petit peu plus de temps. Maintenant, c'est vrai que j'ai passé le relais à Maria, qui est vraiment une cuisinière aussi magnifique, extraordinaire. Mais oui, j'ai toujours aimé faire un peu des expérimentations, tu vois. Ça relève un peu de la chimie,
ouais,
mélanger des produits et puis suivre comment ils évoluent. Donc oui, je sais encore faire quelques recettes. J'aime bien, j'adore la paella. Donc de temps en temps, je me lance et je fais une paella. J'aime bien faire également le far breton au pruneau, qui est une pâtisserie
extraordinaire.
Ouais. Et puis voilà, et puis voilà, déguster le vin aussi. C'est vrai que dans mes origines, j'ai oublié de parler quand même de mes origines bourguignonnes.
Oui.
Mon père est bourguignon, né dans une famille de vignerons, donc il n'est pas resté, mais ses frères sont restés dans l'exploitation en Bourgogne et produisent toujours du vin. Et lui, maintenant qu'il est à la retraite, il va toujours et participe aux vendanges et à la fermentation, qui était un petit peu son domaine de recherche quand il était prof.
C'est grand, la Bourgogne, dans quelle partie?
Il est du côté de Chalon-sur-Saône, dans la Saône-et-Loire. Donc pas très loin du côté de du enfin, il est né au Creusot et puis après vécu dans une petite ville qui s'appelle Dracy-les-Couches, voilà, un tout petit village.
Wow.
Donc voilà, à côté de Couches-les-Mines, en Saône-et-Loire, magnifique petit village, tu vois, probablement 300 habitants, une église et des vignes autour.
Comme prochaine chanson, pardon, tu as choisi L'été indien, Joe Dassin. C'est très d'actualité.
Eh oui, c'est vrai. On est complètement dans cette saison et puis c'est. Donc c'est vrai, c'est d'actualité et puis c'est une chanson formidable, emblématique, qui restera, qui traversera les époques et voilà, et que j'ai toujours adoré et qui parle effectivement de cette époque de l'été indien en Amérique du Nord, donc à Toronto, et tu vois, j'avais aucune idée que j'aboutirai ici un jour, et puis voilà, maintenant j'écoute la chanson, comme on disait, rien n'est au hasard, hein, ouais. si on est là, et si j'aimais cette chanson, peut-être que c'était un peu aussi une partie du destin.
Oui, je dois préciser quand même pour nos auditeurs qu'on est au mois d'octobre et que cette émission est enregistrée à l'avance, donc peut-être que ça coïncidera pas exactement avec la diffusion.
Peut-être qu'il fera un peu plus froid, oui.
Peut-être qu'il fera un peu plus froid, oui. Alors, Joe Dassin, L'été indien, à tout de suite, Pono.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. et je me souviens. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Je m'en vais à l'université, mais pas tout de suite. J'ai décidé de commencer au Collège Boréal. Aller à Boréal, c'est plein d'avantages. Ça coûte moins cher, les classes sont plus petites, puis quand j'aurai mon diplôme, je pourrai aller travailler ou bien faire reconnaître mes cours à l'université et finir mon bac. Ça veut donc dire que dans 4 ans, en plus d'avoir sauvé de l'argent, j'aurai un diplôme technique et même un bac. Visite collègeboréal.ca. Mon choix, c'est Boréal.
De retour avec Bruno Lebeau. Bruno, merci d'être ici. Bruno, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire, aider les autres?
Aider les autres, c'est... Alors, dans mon cas, c'est d'essayer de... On voit de plus en plus de... Je vois, en tout cas, de plus en plus de gens arriver sur Toronto, de plus en plus de Français. Qui viennent pour une grande partie à l'aventure. Toronto a une attractivité vraiment en plein essor et attire beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'en Europe, à Paris, en France, les choses sont peut-être un petit peu moins dynamiques actuellement. Donc ça crée. Il y a en tout cas cette image en France de l'attractivité de Toronto. Donc beaucoup de gens arrivent. Et des fois sur des coups de tête, mais sans trop savoir comment s'intégrer dans la société, comment régler tous les problèmes de papier, etc. Comment trouver un travail. Et ça, c'est quand même la base pour pouvoir réussir son adaptation. Et donc, à travers mon action à la AGEF Ontario, dont on pourra parler un moment aussi.
J'aimerais qu'on en parle. Oui,
on va en parler.
Un bon moment pour en parler.
Voilà, tu as raison d'ailleurs. Donc, pour revenir en fait sur cette association, c'est donc quand je suis arrivé moi au Canada, donc il y a 10 ans,
ouais.
À Toronto, je suis arrivé en tant qu'expatrié. Au bout de 5 ans, on s'est séparés et puis j'avais ce projet à l'époque de rester à Toronto.
Oui.
Et donc, je me suis mis dans cette démarche de trouver mon emploi localement. Et donc, je suis passé par une époque où ben, il a fallu se remettre en question et retrouver un emploi. Et c'est pas forcément facile. Donc c'est là qu'est née la AGEF, une association de réseautage entre anciens des grandes écoles françaises, parce qu'il fallait avoir un socle, mais c'est en fait un petit peu plus large. Ça inclut nos amis, ça inclut le plus de personnes possibles, mais avec cette base. Et l'idée, c'est de quoi ? L'idée, c'est non seulement de s'entraider, parce que j'ai parlé des gens qui arrivent à Toronto et qui ont besoin de trouver un travail, qui ont besoin de s'installer, mais également parmi nos diplômés, parmi nos amis, la perte d'un emploi touche statistiquement 15% des personnes. Donc donc il est important à ce moment-là d'avoir un réseau et de pouvoir pour pouvoir s'entraider. Et c'est ça, aider les autres, c'est passer du temps, c'est du retour d'expérience, c'est dire voilà ce que j'ai vécu et comment j'y suis arrivé. Et voilà. Et quand on est passé par cette période, on a eu beaucoup de gens autour de soi qui t'ont aidé. Tous ces gens dans le réseau, dans ce réseau ou dans d'autres réseaux. Il y a des tas de réseaux. Et on apprécie le temps que les gens peuvent consacrer pour justement aider. C'est bien souvent de la mise en relation, c'est dire quelle est ton histoire, quels sont tes domaines d'expertise, et essayer vraiment de les aider à trouver leur voie, leur chemin. Et ça se fait par beaucoup de rencontres, de coffee meeting comme oui. les appellent les gens ici,
oui.
Pour justement partager et essayer d'aider ceux qui cherchent à se créer eux-mêmes un réseau qui va les aider à un moment ou à un autre à trouver ce qu'ils cherchent.
Alors j'ai participé à plusieurs de tes réunions, puis je trouve ça très sympathique d'abord.
Merci.
Parce que il y a l'association des anciens élèves des grandes écoles françaises, mais il n'y a pas besoin d'être issu, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'une grande école. On peut être invité
Tout
et se
fait.
Présenter comme invité, et ça donne un côté très accessible et très sympathique. Et je tiens à rassurer nos amis anglophones que la plupart des présentations, il y a toujours un invité, et la plupart des présentations se font en anglais, donc c'est moins douloureux.
Oui, c'est vrai, on a pris ce format, la présentation en anglais, parce qu'on a des non francophones parmi, notamment une des écoles qui fait partie de notre association, c'est l'INSEAD, qui est pourtant une école française,
ouais.
Mais qui a toujours été anglophone, même en France. qui a probablement été une des premières écoles en France à offrir le diplôme de MBA. Oui. Donc toujours et qui sont toujours un petit peu mis au niveau des écoles américaines et ont voulu un petit peu rivaliser. Donc l'anglais. Donc on a beaucoup de, enfin on a beaucoup. On a un certain nombre de gens issus de l'INSEAD qui ne parlent pas nécessairement français, mais souvent qui sont intéressés, donc ça les intéresse aussi. Et puis on a aussi des étudiants qui ont fait des échanges, donc des étudiants canadiens de chez Queens, York, Rotman, U of T, qui ont été faire des échanges dans nos écoles en France. Donc des fois, ça remonte à loin, et des fois, ils ne se rappellent pas toujours de leur français, ou en tout cas, ils ont. Et donc, voilà, par respect, et comme tout le monde ici parle anglais, oui. On est mis en anglais. Mais on a de temps en temps, on a des présentations bilingues, et en ouais. tout cas, tu as pu le voir, ouais. En grande majorité, dans les phases de réseautage, c'est souvent le français qui est dominant.
Mais si je me souviens bien, à la dernière réunion, tu mentionnais, ça manque d'ingénieurs, donc tu voulais quelqu'un, tu lançais un appel.
Oui, c'est vrai, parce que c'est l'association, en fait, elle regroupe une vingtaine d'écoles, de grandes écoles, de commerce, d'ingénieurs et d'administration. Donc, on s'aperçoit, et depuis 5 ans que l'association existe et organise des événements mensuels tous les mois, le dernier mercredi de chaque mois, que on a une grande majorité d'élèves issus des grandes écoles de commerce. Les ingénieurs, même s'il y a plus d'écoles, sont à la fois moins nombreux, donc au départ sont des gens qui probablement s'exportent moins, mais également même s'ils sont là présents, ils vont être moins de nature à réseauter. Donc mais c'est des choses qu'on essaie de corriger parce qu'on veut garder un équilibre, et c'est ce qui fait la richesse de notre association. C'est pas qu'une école, c'est des écoles, c'est pas que des écoles de commerce, c'est des écoles aussi d'ingénieurs, d'administration. Qu'on a une diversité qui fait notre richesse, et il faut garder cet équilibre. Donc il faut veiller en permanence à ce que dans nos membres, dans les gens qui viennent, il y ait toujours cet équilibre.
C'est vraiment l'ingénieur extroverti qui parle là.
Voilà, et c'est vrai, on revient un petit peu toujours au départ. C'est vrai, c'est vrai.
Beaucoup de respect pour les ingénieurs. Mon père était ingénieur.
Et le mien aussi.
Oui. Comme prochaine chanson, pardon, tu as choisi Bahia.
Bahia. Et oui, bah, Bahia.
Oui.
J'en ai parlé. C'est Salvador de Bahia.
Ouais.
Donc c'est la ville de Bahia qui est formidable. C'est la première ville que j'ai découverte au Brésil. J'ai atterri un soir de février. En 92, et le carnaval avait déjà commencé. Je rentre dans l'aéroport, c'était déjà le carnaval. Un carnaval qui dure pendant 4-5 jours, non-stop, 24 heures sur 24. Et avec une joie, du positif, des sourires, c'est ce qui m'a marqué, une musique envoûtante, vraiment des formes, des souvenirs inoubliables, et chanté par une voix française merveilleuse,
Véronique Sanson,
que j'ai d'ailleurs eu le plaisir de voir en concert, qui est formidable.
Super. Donc Bahia, à tout de suite. Merci.
Merci.
S'il te plaît, je voudrais. Bien vu dans la lampe de la dernière, je retiendrai de place dans l'avion, très loin du son des accordéons, et je t'aime, caresse-moi. Le matin, on ira voir l'eau. Il n'y a pas d'où. les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie ne reviendront pas.
De retour avec mon invité Bruno Lebeau à l'émission Réussir sa vie. Bruno, on a parlé un peu du Brésil, mais c'est un grand pays, c'est un pays immense, avec beaucoup de joie de vivre et de bonne humeur. Est-ce que tu peux partager un peu plus sur le Brésil?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est bien, c'est tout à fait vrai. Un grand pays, comme le Canada d'ailleurs, c'est un des points communs, très très grand pays, je crois que c'est presque la même surface. Pays magnifique, comme je disais, que j'ai découvert en 92 et à l'époque donc Maria, elle travaillait à côté de Bahia, et puis ben, il fallait bien qu'on choisisse un endroit. À l'époque elle me dit, mais pourquoi tu veux pas rester au Brésil, t'installer avec moi et aussi travailler? Puis je lui dis, pourquoi tu veux pas venir en France? À l'époque, je travaillais en France, et puis finalement, après de longues discussions, elle a dit, ok, d'accord, je viens te rejoindre en France. Et c'est vrai que donc du coup, je lui avais quand même demandé de plaquer beaucoup de choses pour venir me suivre en France. Et quand est arrivée cette opportunité où c'était elle qui disait, bah, écoute, là, j'ai une opportunité pour aller au Brésil. Je pouvais pas refuser et en même temps ça me faisait énormément plaisir de repartir en fait au Brésil, et pays où effectivement la joie de vivre est vraiment des caractéristiques fondamentales. Donc on est arrivé à São Paulo, une ville énorme, ville de travail avec des gens. C'est vrai que c'est différent de Bahia. Autant Bahia, c'est un petit peu le sud de la France, mais au Brésil, donc c'est plus les vacances, le rythme tranquille ou le rythme des îles. São Paulo, c'est presque un petit New York en Amérique latine, mais voilà, qui bouillonne. Et puis, ben, on est quand même resté 2 ans au Brésil, donc ça a permis aussi de le découvrir et de découvrir sa diversité. Le Brésil aussi, après la joie de vivre, ce qui aussi marque, c'est la diversité, le métissage entre les Portugais qui sont arrivés, qui ont trouvé des Indiens. Donc il y a eu ce premier métissage, parce que les Portugais étaient très forts dans leur colonisation pour se mélanger avec la population, je dirais probablement mieux que d'autres colonisateurs. Et ensuite sont arrivés des esclaves d'Afrique, donc il y a toute une population africaine. Sont arrivés les Japonais, plus grosse colonie japonaise en dehors du Japon est au Brésil, et notamment à São Paulo. C'est plus de je sais plus quels sont les chiffres, mais à São Paulo c'est plus d'1 million de Japonais. C'est énorme. Et dans le sud du Brésil aussi, parce que les Japonais sont de bons agriculteurs, ils sont allés au sud du Brésil où il y a un climat tempéré qui ressemble un petit peu à celui de l'Europe, et où il y a de très bonnes conditions pour l'agriculture. Les Japonais. Donc on a ce métissage, toutes ces populations européennes, africaines, indiennes, qui sont mélangées, et un métissage qui donne lieu à, c'est vrai, à une population très belle.
Ça fait des beaux bébés.
Ça fait des beaux bébés. Ça fait des beaux. C'est vrai. C'est magnifique et pareil aussi. Donc une diversité au niveau des gens, mais également au niveau des paysages. C'est un continent. Le Brésil, c'est un continent. Ouais. On a l'Amazone tout au nord avec sa forêt amazonienne, et tout au sud, on peut pratiquement faire du ski. On fait du vin dans le sud. On a des mélanges de climat tropical, méditerranéen. Il y a tout. Il y a des forêts. Il y a la forêt amazonienne. Il y a la mer omniprésente. Il y a une diversité, encore une fois, qui fait la richesse du pays. Et on a eu la chance pendant ces 2 ans de pouvoir parcourir à la fois tout ce nord-est du Brésil, aller dans des endroits comme les îles de Fernando de Noronha, qui sont des îles qui sont restreintes aux touristes. Tu peux pas avoir plus de quelques centaines de touristes parce qu'ils préservent la nature. Mmh. Tu vois les tortues naître sur la plage et rejoindre l'eau. Enfin, il y a tout ce côté écologique.
Mais tu suis quand même ce qui se passe au Brésil en ce moment, puis c'est dur, je crois.
Oui, je suis, mais finalement, pour y avoir vécu, c'est vrai que de l'extérieur, quand on n'a pas vécu, on peut avoir tendance à se dire, oh mon Dieu, les pauvres, etc.
J'en souffre, oui.
Mais le Brésil a toujours traversé des époques difficiles et a toujours réussi à les surmonter, je dirais presque avec le sourire, avec cette nonchalance. C'est pas ce qui va les démoraliser. Nous, peut-être en tant qu'Européens ou Nord-Américains, on peut avoir tendance à se laisser des fois décourager. Le Brésilien, il est de nature assez frivole et il est habitué.
Je pense qu'il faudrait inviter des Brésiliens à parler de réussir sa vie.
Oui, on en connaît un certain nombre.
Peut-être qu'ils ont découvert le secret.
Ah ouais, exactement. C'est vrai que à ce niveau-là, je crois qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, c'est vrai.
Ouais. Oui, pardon. tu as choisi Sous le vent de Céline Dion.
Oui, parce que je voulais quand même mettre des artistes canadiens et c'est vrai que c'est une superbe chanson de Céline Dion et accompagnée par Garou, qui sont deux artistes canadiens formidables qui ont eu un succès fabuleux en France et dont on ne se lasse pas d'entendre les chansons et c'est bien agréable de temps en temps de réécouter ces titres qui n'ont pas pris beaucoup de rides.
Alors Sous le vent. À tout de suite.
Tout de suite.
Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi. Un instant
sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. c'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute, ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant.
De retour avec mon invité du jour, Bruno Lebeau. Bruno, nous voilà rendus à la dernière partie de notre émission qui se termine par le questionnaire de Bernard Pivot, qui est vraiment un point de référence. Alors allons-y, votre mot préféré ?
Positif.
Le mot que vous détestez ?
Négatif.
Votre drogue favorite ?
Qu'est-ce que j'ai mis? Les bonnes choses, les bonnes choses. Excuse-moi, j'ai un trou.
Les bonnes choses.
C'est des bonnes choses, hein. Les bonnes choses.
Le son, le bruit que vous aimez.
Le bruit de la mer.
Le son, le bruit que vous détestez.
Alors, le bruit que je déteste, c'est le bruit des voitures sur l'autoroute quand tu es dans une chambre d'hôtel, comme ça m'arrive bien souvent, et qui t'empêche de dormir.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori?
Alors, c'est n'importe lequel, mais c'est donc tous les gros mots, mais prononcés avec l'accent du midi. Je trouve que... Ils ne deviennent presque plus des gros mots. Ça devient amical. Ça devient même des jolis mots.
Absolument. Ça devient de la poésie.
Exactement.
Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque.
Alors oui, là je pense à Norman Borloo. Et la raison pour laquelle je cite, c'est que on lui attribue d'avoir sauvé plus d'un milliard de vies. Grâce aux nouveaux types de culture de blé, je pense notamment, c'est surtout sur le blé. Dans la culture du blé, il a réussi à doubler, tripler les rendements, notamment dans les populations qui en ont grandement besoin, comme le Mexique. Il a commencé par le Mexique. C'est un ingénieur agronome américain qui a démarré par le Mexique et ensuite l'Inde, l'Afrique. Et donc voilà, le fait qu'il ait pu augmenter le rendement des cultures fait qu'aujourd'hui, on lui attribue d'avoir sauvé un milliard de vies. Quoi de plus grandiose que cet accomplissement?
Merci du choix. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire?
Chirurgien. Dès tout jeune, j'ai toujours eu de voir du sang ou de voir des opérations, comme des fois je pouvais en voir, soit sur des images ou à la télévision, ça m'a toujours rendu mal à l'aise. Et donc je savais que si ça me rendait mal à l'aise, c'était pas la peine
d'assister,
exactement.
C'est aussi important de savoir ce qu'on veut pas que ce qu'on veut. Hein.
Exactement.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné?
Le dauphin. Le dauphin, je trouve... Pourquoi le dauphin? Parce qu'il est tellement sympathique, il est tellement... tout le monde l'adore et il a pas d'ennemis à ma connaissance. Il est joyeux.
Il doit être brésilien, je pense.
Très probablement.
Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire?
Bienvenue. Bienvenue, mon cher.
Oui, mais il n'y a pas le feu, on n'est pas pressé.
Tout à fait, on n'est pas pressé, mais ceci dit, on peut être amené à partir à tout moment. Et voilà, donc c'est une façon aussi de ne pas avoir peur de la mort, et puis d'espérer qu'il y ait des belles choses après la mort.
Bien sûr, pourquoi pas. Donc Bruno, merci encore d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Au plaisir de te revoir à l'association des anciens élèves des grandes écoles.
Avec plaisir.
Et puis, tu es bienvenu quand tu veux.
Merci, au plaisir de te revoir aussi Guy. Merci bien.
À bientôt Bruno. À bientôt. Comme dernière chanson, tu as choisi Charles Aznavour. J'aime Paris au mois de mai.
Ah voilà. Voilà, retour à la source, effectivement, une magnifique chanson d'un grand homme qui passe à Toronto d'ailleurs, j'ai déjà vu là en 10 ans, il a dû passer déjà plusieurs fois. Malheureusement je suis pas allé le voir, mais voilà, quelqu'un qui a des chansons fabuleuses et sur Paris, qui décrit très bien Paris au mois de mai. C'est vrai que c'est une chanson fabuleuse.
Merci Bruno, à bientôt.
Merci.
Que le soleil caresse ces vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, j'aime dans les rues où je passe, j'aime ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Oui, il me plaît à me promener. Par les rues qui se faufilent, à travers toute la ville, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Avec ses bouquinistes, ces aquarellistes que le printemps a ramenés, comme chaque année le long des quais. J'aime Paris au mois de mai. Pour m'asseoir en terrasse devant un Fidel Castro et regarder les gens passer. J'aime les soirs de première, guetter les heures entières, les vedettes que je préfère, françaises ou étrangères. Oui, il me plaît à me promener. En contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. En juin aussi d'ailleurs, on n'y voit pas les rues. Avec presque rien sur le dos, qui se prennent pour Brigitte Bardot. J'aime Paris au mois de mai. Ou alors elle se prenne pour Sylvie Vartan. Quand soudain tout s'anime, par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. J'aime quand la nuit sévère étend la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener par les rues qui fourmillent tout en draguant